France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Être supporter vient de l'anglais to support, qui signifie soutenir une équipe, l'encourager. On dit partisan en québécois, aficionado en espagnol. Et les supporters du PSG samedi soir vont vibrer autant que les tifosi de l'Inter Milan pour la finale de la Ligue des Champions. Ça fait 32 ans qu'un club français n'a pas remporté la coupe aux grandes oreilles la plus prestigieuse d'Europe. C'était l'OM à l'époque. À jamais les premiers, clament les supporters marseillais, dont le meilleur ennemi est évidemment le PSG. Alors, peut-on être marseillais et supporter Paris pour une fois? Le soutien de Basile Boli a choqué ces derniers jours, mais au-delà des antagonismes et du football aussi. Dites-nous pourquoi vous avez choisi, vous, de supporter une équipe. On peut parler de rugby. L'Union Bordeaux-Bègles a remporté la Champions Cup samedi dernier, mais aussi de basket, de handball, de volley. Pourquoi ce besoin d'appartenance? Est-ce une façon de faire société, d'appartenir à un collectif, à une famille même? On s'époumonne ensemble, on crée des tifos de plus en plus impressionnants. Bref, on vibre ensemble, on fait corps contre une équipe adverse, d'où certains dérapages parfois avec des bus de joueurs caillassés ou des incidents sur le terrain. On peut être spectateur. Mais supporter, c'est autre chose. Et c'est ce que l'on a envie d'explorer avec vous ce soir, quelle que soit votre équipe de cœur, et quel que soit le sport d'ailleurs. C'est le téléphone sonne, et que le meilleur gagne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et ce soir, on a eu envie de commencer par un coup de fil à Jonathan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du groupe de supporters du PSG, les 300, en direct de Munich. Vous êtes déjà arrivé?
Oui, je suis arrivé ce matin. On s'est organisé pour arriver très tôt et pour vivre ce match pleinement.
C'est votre Graal, vous, cette finale?
Ah, c'est un grand moment d'émotion, ouais. C'est un Graal parce que c'est notre première vraie finale sur place.
Oui,
parce que celle de 2020, on n'avait pas pu
assister. Celle de 2020, c'était autre chose. On était dans un contexte de Covid.
Exactement. Et là, c'est chargé en émotion. C'est avec beaucoup de fierté qu'on vient représenter nos couleurs. Et c'est magnifique.
Bon, quelle est l'origine de votre passion, Jonathan?
Alors, je pense que j'étais un peu à contre-courant. En gros, quand on est enfant, qu'on commence à aimer le foot, généralement, on va plutôt, supporter, on va dire, l'équipe qui gagne. Et à l'époque, quand j'étais petit, c'était pas Paris l'équipe qui gagnait, mais c'était l'équipe de ma ville, c'était mon club de cœur. Voilà, j'avais besoin moi de supporter l'équipe de ma ville et de représenter les couleurs et puis pouvoir aller au stade pour le vivre surtout.
Mmh. Et vous êtes allé au stade avec qui pour la première fois? Parce qu'on va voir que souvent c'est une question assez importante.
Ah bah c'est mon père. C'est mon père qui m'y a amené. C'est mon père qui m'a fait découvrir le foot et qui m'a appris le terrain, comment ça fonctionnait, les tribunes. Et c'est magnifique de vivre ça avec son père.
Mmh. C'est la famille pour entrer dans une autre famille, en quelque sorte?
Oui, c'est exactement ça. Ça devient une deuxième famille quand on s'habitue aux tribunes, quand on aime chanter, s'époumonner et vibrer. Bah, c'est comme une famille, exactement.
Alors, pour en parler avec vous ce soir, Nathalie Yanetta, bonsoir.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Ça fait partie de notre famille ici à Radio France, c'est la patronne des sports. Nous sommes aussi en ligne avec Ludovic Lestrelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université Caen Normandie, membre du laboratoire du CNRS Espace et Société, grand spécialiste des supporters. Et puis en studio aussi avec nous, Mathias Priez, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général du Paris Basketball, parce qu'il n'y a pas que des supporters de foot dans la vie. Alors, Jonathan, qui est toujours en ligne avec nous, et vous restez avec nous, hein, Jonathan, nous disait « c'est mon père au départ ». Est-ce que ça commence toujours, Ludovic Lestrelin, par une histoire de famille?
Souvent, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission intrafamiliale, intergénérationnelle. Souvent, c'est effectivement une figure masculine, un papa, ça peut être un grand-père, un oncle, un frère. Mmh. Mais aussi, à mesure que progressivement, des femmes sont de plus en plus aussi présentes dans l'univers du supporterisme, ça peut être aussi une maman, hein, pourquoi pas.
Une maman ou une tatie, quoi.
Non, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ce sont souvent des histoires de famille. Et puis après, il y a un autre modèle où ça arrive aussi bien plus fréquemment qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il y a des grands supporters qui ont grandi dans une famille absolument pas sensible au sport et encore moins au club soutenu. Et du coup, ça crée, on peut bien l'imaginer, des discussions familiales par la suite sur l'origine de cette passion. Ouais.
Nathalie Yanetta, je vous vois opiner du chef.
Ah bah oui, parce qu'on connaît tous des... D'abord, alors évidemment, il y a cette transmission, mais quand elle n'existe pas, Ludovic a raison, il y a parfois aussi des coups de foudre, c'est-à-dire un enfant qui va voir un match d'une équipe, il se passe quelque chose, il partage une émotion, il rentre à la maison, et à partir de ce moment-là, cette histoire-là deviendra la sienne. Et c'est aussi de très grandes histoires de supporters, ça.
Mmh. Et quand on parlait tout à l'heure de deuxième famille. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, ça aussi ?
Beaucoup
vous êtes d'accord avec ça,
oui,
Nathalie ?
Oui, beaucoup de supporters. Vraiment, être supporter, c'est pas seulement regarder un match et être content que l'équipe gagne. Hein. C'est du don de soi, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est le fait de retrouver aussi, en amont, vous parliez des tifos, ça se prépare à l'avance. C'est une autre bande d'amis que vous rencontrez pas spécialement, d'ailleurs, autre part qu'en allant au stade ou en se retrouvant au stade. Et puis, c'est à la fois une famille et c'est aussi un membre de la famille. Quand l'équipe va mal, on va mal. Quand l'équipe va bien, on est heureux. C'est des sentiments totalement irrationnels. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui regardent les supporters sur le mode, mais enfin, c'est juste un match de foot ou un match de rugby. Mmh. Ne te mets pas dans tous ces états. Combien de fois on a entendu cette phrase ? Ben si, c'est ça, être supporter, c'est se mettre dans tous ces états.
Vous êtes d'accord avec ça, Jonathan, j'imagine ?
À 100% aligné. Mais... Je sais pas comment décrire en fait ces émotions et je suis un peu triste d'ailleurs pour ceux qui ne les connaissent pas.
Alors c'est exactement le thème de mon édito sur France Inter demain parce que je crois qu'il faut qu'on soit jaloux de vous quand on n'est pas supporter du PSG ou quand on n'est pas supporter de l'Inter. Ce que vous allez vivre là samedi soir, les uns face aux autres, c'est un truc unique quand on l'a déjà vécu avec son équipe. Mmh. Moi je suis tellement jaloux, je vous envie Jonathan, mais kiffez votre moment, kiffez ces heures là qui vous séparent de cette finale, mais vraiment parce que c'est unique et quand ça arrive rarement, pardon d'être un peu désagréable, mais c'est vrai que pour le Paris Saint-Germain c'est quand même pas tous les ans, et ben en plus vous l'avez mérité, vous en avez bavé, allez-y, c'est votre finale, ne vous la laissez prendre par personne, vraiment.
Ah ben on la vivra et ce sera même au-delà du score, on est tous très heureux, vraiment.
Est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont prévues de votre côté pour samedi soir, Jonathan ?
Alors nous, on n'est pas des ultras, donc on prévoit rien de particulier, hormis chanter pendant 90 minutes ou plus s'il le faut, et le vivre chaque émotion et rêver que la Tour Eiffel scintille deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois à chaque but.
Voilà. Oui, voilà, on va expliquer pourquoi, parce que la mairie de Paris a dit qu'à chaque but, la Tour Eiffel
se mettra à scintiller. On en parlait dans le journal.
Juste faire attention à la VAR, parce que ça peut aussi faire des faux départs. Oui, vraiment.
il parlait de l'importance des ultras à l'instant, Ludovic Lestrelin. Quelle est la différence entre un supporter de base et un ultra ?
Bien, la logique associative et l'organisation poussée, l'engagement corporel prononcé pendant la rencontre au stade. Et donc, quand on dit engagement corporel...
Oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça veut dire chanter, ça veut dire sauter, c'est entre guillemets être capable de faire le carnaval en tribune, c'est-à-dire vraiment être actif, c'est-à-dire que le supporterisme ultra, c'est l'idée que l'on va avoir une influence, on va chercher à peser en fait sur le scénario sportif et donc on va pousser. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les supporters ultra se placent dans les virages, c'est-à-dire les tribunes qui sont situées derrière les buts. C'est-à-dire que vous avez la même vision axiale du match que les joueurs et donc pendant la première mi-temps, vous poussez avec votre équipe. Pendant la seconde, vous défendez avec votre équipe. Donc on s'érige en quelque sorte en acteur et puis on déplace aussi le spectacle du terrain vers les tribunes puisque en fait les supporters ultras vont vont organiser, orchestrer, tout ça est très organisé, hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre.
Mais ça, on va expliquer, parce que je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on n'est pas supporter, ce qui est mon cas, donc moi je suis vraiment la naïve de base. Expliquez-moi comment tout ça s'organise, justement, Ludovic Lestrelin.
Déjà, donc, les groupes ultra, il faut comprendre que souvent ça part de réseaux amicaux, souvent lycéens ou des jeunes qui se connaissent parce qu'ils habitent dans le même quartier, et puis progressivement ce sont des groupes qui vont monter en puissance, à tel point que vous avez parfois des groupes, ce sont des milliers d'adhérents, et donc il y a une répartition des tâches, il y a une répartition des rôles, il y a un local souvent associatif dans lequel les gens se retrouvent hors du temps des matchs, hein, et dans ce local associatif ou dans d'autres espaces qui sont prévus, par exemple à proximité du stade, les gens se retrouvent, préparent les spectacles qui vont être mis en place au début des, à la rentrée des joueurs sur la pelouse. Donc en fait, et ça rejoint ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une vie sociale en amont et en aval des matchs. Le match, c'est le temps chaud en quelque sorte, mais ça vient remplir en quelque sorte le quotidien pour ceux qui sont les plus investis, hein. Et un peu à l'image d'un parti politique où vous avez les dirigeants, les leaders, les militants, les sympathisants, on a comme ça dans les groupes ultra des strates un peu d'engagement.
Finalement, c'est très hiérarchisé. Rien n'est improvisé dans cette histoire.
Ce qui est très valorisé, c'est l'organisation, oui. Et en même temps, le débridement aussi. C'est-à-dire, c'est une sorte de débridement organisé, puisque en fait, ce qui va être valorisé, c'est dans certaines tribunes, on parle d'hystérie collective, c'est la ferveur, c'est être capable de chanter longtemps, durablement, de prendre le dessus vocalement sur les supporters adverses, hein, et puis de créer une atmosphère.
Mais il y a parfois aussi des débordements avec les ultras.
Oui, bien sûr, c'est aussi un supporterisme qui se veut radical, et de fait création de rivalité importante avec les ultras adverses notamment. Et de fait, effectivement, il peut y avoir des violences. Oui,
mais soyons bien clairs, Ludovic Lestrelin et Nathalie Yanetta, des ultras ne sont pas des hooligans.
Non. Non, il peut y avoir certains hooligans dans des groupes d'ultras, mais les ultras ne sont pas des hooligans. Ludovic Lestrelin l'explique très bien, notamment dans ses écrits. L'ultra, c'est le degré ultime du supporter. C'est le militant. La figure avec les partis politiques est juste. C'est celui qui va coller les affiches et celui qui donne pour que son champion gagne. Et là, c'est vraiment des champions, en l'occurrence.
Mathias Priez, vous êtes directeur général du Paris Basketball. Est-ce que vous êtes un petit peu jaloux de l'engouement que suscite le foot par rapport au basket ?
Alors, on n'est pas complètement jaloux parce qu'on a beaucoup d'atouts au niveau du supporterisme dans le basketball. D'abord, c'est la proximité de la salle. Et puis, c'est vrai qu'on arrive, notamment à l'Adidas Arena, en Euroleague, à accueillir des centaines de supporters serbes, turcs, grecs, avec une ambiance fabuleuse en intérieur, sans aucun incident. Donc ça, c'est vrai que c'est un atout. Et ça montre qu'effectivement, il n'y a pas un lien entre, y compris des supporters ultra et de la violence systématique. Après, là, effectivement, il y a une grosse période pour le PSG. Toute la ville de Paris est derrière et donc évidemment on aura les regards tournés, mais je pense qu'on a, une autre manière de voir le supporterisme dans le basketball. Nos supporters,
vous diriez quoi, que c'est plus apaisé?
C'est
quoi
plus
la
apaisé
différence?
D'abord, il y a une différence entre le supporterisme dans le basketball au niveau européen, où là on se rapproche un peu plus du football, et au niveau français, mais effectivement c'est plus apaisé, ça va plus intégrer des enfants, des familles,
et c'est plus familial,
effectivement, et ça permet surtout d'un peu plus mélanger les publics. C'est vrai qu'on a arrive à avoir le meilleur du supporterisme ou des ultras sans avoir aussi parfois certains effets pervers, notamment de la violence. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous d'accueillir, comme je disais, des équipes turques, grecques, sans aucun incident, mais en même temps en ayant le meilleur de la radicalité de ces supporters-là.
Bonsoir Marie-Laure.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Vous nous appelez de Marseille.
Je voilà, dis ça, je donc dis rien. Ça sera notre club, ça sera notre club. Mais moi, c'est en tant que mère d'un supporter. Alors, au départ, c'était l'équipe de France, puis, mais après, vers 16 ans, ça a été sur l'OM et crescendo. Alors, le père, il suivait un peu, mais alors, sur les maths, c'est le père qui s'énervait. Maintenant, c'est le fils. Enfin, ça prend les tripes. Alors, moi qui n'écoutais pas, maintenant, je me dis, ah, tiens, ils sont aux maths ou quoi, je vais écouter parce que comme ça, enfin, je voudrais qu'ils gagnent. Pour qu'il soit content, parce que des fois ça éteint la télé. Ah oui, là. Si ça éteint la télé, si ça commence à perdre, ça remet, bon, ça reçuit. C'est une intensité, je veux dire, dans l'émotion. Alors c'est bien parce que je trouve, enfin, moi, tous les sports, moi, ça me prend, voilà, les équipes de France de tous les sports, ça me. Voilà, moi, je suis sur ça, je ne suis pas sur.
Vous êtes plus sur l'équipe de France. Ah, c'est intéressant aussi de parler de ça. Vous êtes sur l'équipe de France de foot.
Ah, toujours. Ah, de
plus que sur l'OM, vous voulez dire?
Ah oui, mais plus le rugby. Moi, je suis plus le rugby depuis que j'étais avec mon grand-père que l'équipe de foot. Mais bon, mais là, l'OM, je vous dis, s'ils sont pas à la maison, mais je vais écouter parce que pour essayer de vibrer un peu. Et pour, bon, si ça perd, j'ai dit, bon, je sais que la soirée, le lendemain, vont être un peu plus difficiles. Mmh. Mais c'est cet impact.
Oui, ils ont la gueule de bois, quoi, en fait. Hein.
Ah, l'impact. Et puis, bon, maintenant, parce qu'il va falloir discuter un peu, parce que quand même, on était quatre. L'aîné, ça nous fout, même pas en rêve, ça ne l'intéresse pas. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut un peu aussi prendre raison. Enfin, il faut avoir un peu un détachement, parce que, bon, il ne faut pas que ça
vous trouvez finalement que ça prend trop de place dans leur vie ou qu'ils le vivent trop intensément?
Ben, il le vit très très intense. Ah non, les soirs de match, je vous assure, c'est très très intense. Mais il arrive, bon, quand... Bon, là, apparemment, ils avaient bien gagné, donc c'était bien. Mais quand il a réussi à mettre un peu de distance, parce que c'était...
Quel âge?
Maintenant, il a 22 ans. Il va faire 22 ans. Oui. Mais vers 20 ans, je veux dire, c'était des colères. Enfin, voilà. C'est bon, après, on le voit des fois dans les stades, hein, mais faudrait, voilà. Bon, après, c'est pas. Il a fait un peu des études. Ça n'a pas été que le foot, parce qu'à Marseille, il y en a qui vivent pour le foot. Hein.
Mm-hmm. Jonathan, est-ce que vous le vivez vous aussi comme ça, avec cette intensité-là?
Ah oui, complètement. Ah ben, au niveau de l'intensité, je la rejoins complètement. On devient fou. Le foot rend fou. C'est indescriptible, encore une fois. Hein. Je pèse mes mots, mais c'est une douce folie. Voilà. C'est une vraie douce folie.
Folie qui prend toute votre vie, Jonathan. Par exemple, comment vous vous organisez? Est-ce que vous organisez votre vie autour de votre équipe, autour du calendrier des matchs de votre équipe?
Non, je vais pas jusque là parce que depuis que je suis papa, ça a quand même aussi mes enfants, oui, de plus en plus. Mais j'organise pas ma vie autour de ça, clairement pas. Par contre, je vibre et je regarde tous les matchs absolument sans exception. C'est impensable que je puisse rater un match.
Mmh. Est-ce que c'est peut-être la question qui va fâcher un peu, mais est-ce que vous pourriez soutenir une autre équipe?
Impossible. Impossible parce que l'attachement. Alors, moi, parisien, j'ai un attachement à la ville. Clairement, du coup, on peut pas me déraciner là. On va rentrer dans d'autres choses qui sont un peu plus de l'ordre du personnel et de l'inexplicable. Mais quand on est attaché à une ville, c'est très difficile, surtout quand on y a grandi et que on l'aime. Et nous, bon bah, c'est Paris. Voilà, on aime cette ville et on aime par défaut ce club aussi de notre enfance. Donc il y a un double attachement. Il y a l'attachement au football et puis il y a l'attachement à la ville.
Oui, mais là, par exemple, Jonathan, il va y avoir une autre équipe en Ligue 1 parisienne qui est le Paris Football Club. C'est inenvisageable, évidemment, pour vous.
Alors, c'est inenvisageable, mais pour autant, je suis très content qu'on ait un deuxième club à Paris. Vraiment. Je trouve que ça nous fait grandir et ça nous fait évoluer aussi, nous, en tant que supporters. Puisqu'on se rapproche, Nathalie le sait très bien, on va se rapprocher des modèles milanais, madrilènes ou...
Européens, parce qu'il n'y a qu'en France où une très grande capitale n'avait qu'un seul club dans l'élite. Hein, c'est une anomalie réparée, là.
Voilà, exactement. Mais pour le coup, oui, du coup, on se standardise un peu et notre présence en finale en est un parfait exemple.
Merci Jonathan. On va repartir au standard avec Charlotte, qui est à Évian. Bonsoir Charlotte.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors moi, je voulais rebondir sur le début d'émission. Vous disiez que c'était souvent les passions, le fait d'être fan et supporter venait du milieu familial.
Ouais.
Et chez nous, il s'est passé le contraire. Alors je ne parle pas de foot ou de sport d'équipe, mais de sport automobile. On a un jeune qui a 8-9 ans, s'est passionné pour le sport auto.
Oui.
Alors que c'était pas du tout... Enfin, nous, on n'y connaissait rien, on regardait pas ça, ça nous intéressait pas.
Il est allé tout seul, en fait.
Il est allé tout seul, et on n'a jamais tellement compris comment, pourquoi. Et il est devenu totalement fan d'une écurie, et d'un pilote en particulier. Et en grandissant, il s'est mis à ressembler à ce pilote. Bon.
Et c'est qui il a des on peut savoir qui est ce pilote?
C'est Max Verstappen.
Ouais. Pas n'importe lequel. Hein.
Non, pas n'importe lequel. Il est très intéressé par sa personnalité. Il joue aussi beaucoup en ligne à piloter. Et ouais. Il s'est retrouvé un jour dans le même lobby que Max Verstappen. Donc l'excitation était à son comble. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que ça l'a construit dans toute son adolescence, dans son parcours de lycéen aussi. Il s'est mis à travailler pour se payer des grands prix. Il s'est mis à travailler Génial. Pour se payer du karting. À travailler en boulangerie. Ouais. Et il a réussi à nous communiquer. Bon, son père, c'était pas trop compliqué, mais en tout cas, moi, il a réussi à me communiquer sa passion, alors qu'à la base, c'était pas du tout mon truc. Et on est d'une famille de sportifs, mais plutôt des sports olympiques, des choses comme ça, ouais. quoi. Donc, rien à voir. Et il m'a éduquée, en fait, et maintenant, ça me passionne aussi. Donc, je trouve ça chouette dans ce sens-là. Voilà,
bah oui, parce qu'on disait que ça venait plutôt de la famille et que ça descendait sur les enfants, et vous nous prouvez que c'est le contraire. Ça peut infuser dans l'autre sens aussi. Ludovic Lestrelin, c'est intéressant le témoignage de Charlotte oui. qui nous parle de son fils qui est devenu Absolument. Fan de F1. Moi, je croyais qu'on était supporter que dans le cadre de sport collectif.
Non, 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 non. Il y a évidemment des supporters aussi autour de sport individuel. Ce qui est intéressant dans les deux témoignages là qui viennent de se succéder, Marie-Laure d'abord et Charlotte. Alors déjà, dans le témoignage de Charlotte, on voit bien qu'il y a effectivement des cheminements inversés, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont en quelque sorte communiquer leur passion aux parents. Hein, ça va des enfants vers les parents. Et donc, je pense que c'est un cheminement bien plus fréquent qu'on le pense. Mm-hmm. Et par ailleurs, aussi, on voit bien qu'être supporter engage toujours plus qu'un rapport entre soi-même et l'équipe qu'on supporte ou le champion qu'on supporte.
C'est-à-dire
ça, c'est-à-dire que ça va aussi engager les proches. Donc, du coup, ça suscite la réaction des proches. Ça peut être une réaction d'accompagnement ou d'hostilité, quand effectivement, on peut estimer que la passion va trop loin. Mais en fait, ça engage des interactions avec le milieu familial, avec le milieu amical, éventuellement en contexte professionnel avec des collègues de travail. C'est profondément social. Voilà, ça c'est un phénomène profondément social, au sens que ouais. il y a des échanges et des interactions autour de la passion que l'on vit. Quoi.
Ouais. On fait société quelque part.
Oui, d'une certaine façon. Il y a du lien qui se crée, ça c'est évident.
Il y a une communauté, mais on est aussi contre d'autres, de manière parfois violente. Hein.
Oui, oui. Ah bah, en fait, c'est-à-dire que être supporter, c'est la différence entre le spectateur et le supporter, c'est que le supporter, il est engagé, il s'engage dans le spectacle. Et s'engager dans le spectacle, ça veut dire d'abord prendre parti pour une équipe ou pour un sportif en particulier. Et le fait de prendre parti, c'est être pour, mais c'est être aussi contre. On parlait de Verstappen, bah peut-être que aujourd'hui cet adolescent ou jeune adulte, il idolâtre peut-être Verstappen et peut-être qu'il a des sentiments négatifs contre un autre pilote. Ou si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, bah effectivement, l'un des grands rivaux à l'échelle nationale, c'est l'Olympique de Marseille. Donc c'est effectivement à la fois pour et à la fois contre.
Mathias Priez, au Paris Basketball, vous êtes un club assez jeune, hein, qui a 7 ans, un club qui a de grosses ambitions, vous jouez en Euroleague. Comment est-ce qu'on construit une communauté de supporters ?
Pour nous, effectivement, on a 7 ans, donc c'était pas facile, et le club s'est créé, donc il n'y avait pas cette filiation générationnelle. On n'était pas supporters du Paris Basketball de père en fils, puisque, en l'occurrence, le club s'est créé en 2018, même s'il y a une riche histoire du basketball, déjà à Paris avec les clubs, et puis la culture basketball, qui est aussi une sorte de contre-culture. Donc il y a beaucoup de supporters qui se sont agrégés au projet et justement qui allaient chercher quelque chose et des émotions différentes que du football ou du rugby qui existait déjà sur Paris. Nous, on a effectivement tout de suite et dans une démarche de club, puisque là pour le coup, moi je vais parler en tant que club, une démarche active pour, on va dire, aider à la création d'un club de supporters qui est aujourd'hui le Club Parisi. C'était pensé aussi, alors c'est pas quelque chose de factice, mais c'était pensé comme un objectif majeur parce que dès qu'on s'est créé et quand on est monté en première division et qu'on a affronté des clubs comme Le Mans ou Roanne, on a tout de suite été confronté à des supporters adverses qui se déplaçaient. Et à Paris, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on est face à un public de spectateurs engagés. Ça dépend du match. L'avantage des supporters, c'est qu'ils sont engagés dès le début, sincèrement. Et c'est vrai que par toutes les émotions qu'on arrivait à faire passer au Paris Basketball, l'animation, tout ce que permet le basketball, justement, sur les temps morts, la réunion du public, il manquait quelque chose, il manquait les émotions de supporters. Et quand il y avait les supporters adverses qui nous éteignaient à domicile, on s'est dit, c'est pas possible. Il nous manque quelque chose dans le club. Ouais. Donc, on a créé ce club de supporters. Et c'est vraiment un étage d'émotion indispensable aujourd'hui à l'Adidas Arena. Il y a les familles, il y a les animations, il y a la fraternité, mais il y a aussi le supporterisme et encore plus les soirs d'Euroleague. Et c'est pour nous, d'un point de vue marketing, quelque chose d'indispensable.
Et c'est relayé aussi sur les réseaux sociaux ? Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ?
C'est relayé. Alors, le COP parisien est totalement indépendant. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on les intègre et on est très, très content d'avoir des tifos, parfois des fumigènes en extérieur, des animations, et on le relaie sur nos réseaux sociaux. C'est aussi une magnifique publicité pour l'Arena. Et en tant que club, on est très fiers aussi. Bah, ça fait partie de notre histoire de gagner des titres et de gagner avec un collectif, effectivement, qui s'engage profondément depuis maintenant des années. Et c'est, on va dire, une famille élargie. Le club des Parisiens avec le club.
Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est devenu essentiel, Ludovic Lestrelin, aujourd'hui dans les grands clubs.
Oui, parce que les clubs ont une activité conséquente sur les réseaux numériques. Ils ont des professionnels de la communication qui œuvrent à justement donc travailler à une plus grande proximité finalement. C'est ça aussi que créent les réseaux numériques. C'est créer un sentiment de proximité entre le public et le club, l'équipe, les joueurs. Par ailleurs, les réseaux numériques vont avoir un rôle clé aujourd'hui dans la vie des supporters.
On crée des supporters influenceurs, c'est ça ?
Alors oui, pour certains supporters, effectivement, qui vont avoir une activité importante sur les réseaux, ça va générer, enfin ça va pouvoir potentiellement créer une visibilité. Vous avez effectivement des supporters qui vont s'ériger un peu en influenceurs d'une communauté, avec des gens qui les suivent, y compris parfois des dirigeants du club lui-même qui suivent tel supporter influent ou des journalistes. Donc il y a effectivement pour un certain nombre de supporters une visibilité numérique construite progressivement et qui peut avoir des effets assez étonnants. Je vais juste citer une anecdote. Le directeur du musée de l'Olympique Lyonnais est un grand supporter de l'Olympique Lyonnais, donc lyonnais d'origine, monté à la capitale, ayant une carrière dans le milieu bancaire. Il tenait un compte sur l'ex-Twitter devenu X sur l'histoire du club, voilà, très documenté, très suivi par une communauté très importante de supporters de l'Olympique Lyonnais et pas que. Jean-Michel Aulas était à l'époque le président de l'Olympique Lyonnais. Il repère cet individu, il lui propose de prendre les rênes du musée de l'Olympique Lyonnais.
D'accord. C'est une belle histoire. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Ben, on reste à Lyon avec vous, justement.
Oui, alors, voilà, moi je suis supporter du Loup Rugby.
Oui.
Je me rends compte que par rapport aux autres sports collectifs, volleyball, basket, hand, le supportariat n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que pour les matchs de foot, il y a généralement des centaines de policiers déployés, il y a des rixes, il y a des bus qui se font caillasser, et je comprends pas pourquoi. Moi, ça m'est souvent arrivé de me retrouver voir des matchs de rugby avec des supporters de l'équipe adverse, et bah, à la limite, on buvait des coups ensemble, quoi. Donc, je comprends pas cette démarche violente qu'il y a autour du rugby, du football, pardon.
Alors, je me tourne, c'est intéressant votre lapsus, je me tourne vers Nathalie Yanetta.
Bah, moi, je suis pas sociologue comme Ludovic Lestrelin, mais ça s'explique aussi par la valeur intrinsèque du sport que vous supportez. Le football est un sport d'opposition. Le rugby, l'une des valeurs de l'Ovalie, comme on dit, c'est la solidarité. Il y a ces fameuses troisième mi-temps, c'est culturel. Donc, l'opposition, elle est sur le terrain. Vous ferez pas supporter quelqu'un qui est de Clermont, le Stade Toulousain. Néanmoins, comme le dit votre auditeur lyonnais, après un match, il peut aller boire une bière avec quelqu'un du Stade Français ou d'Agen. Et je pense que c'est lié quand même à intrinsèquement le foot est un vrai sport d'opposition. C'est comme ça qu'il s'est construit dans des villes et des villages où il fallait opposer des cités.
des quartiers, des familles adverses, et il a conservé cette opposition, ce qui signifie pas que les rixes et les débordements se justifient. D'accord. Néanmoins, il s'explique.
Et c'est différent dans le basket, évidemment, là aussi. Enfin, c'est comme le rugby, c'est plus apaisé, vous diriez.
C'est beaucoup plus apaisé. Alors, on a quand même des clubs omnisports qui sont des clubs de football et de basketball. Donc, quand on a les deux clubs serbes, l'Étoile Rouge et le Partizan Belgrade qui s'affrontent, là, pour le coup, il y a,
un peu chaud,
y a beaucoup de police et voilà, vaut mieux pas mélanger les supporters.
C'est pas hermétique.
Voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, notre expérience, c'est qu'on a réussi à avoir aucune volonté d'incident, même si on avait des supporters très chauds qui sont venus vous voir. Bon, il y a quand même des oppositions. Je pense que si on fait un Polymoges en basketball, on ne voudra pas non plus mélanger
attention,
les supporters.
Je suis Limougeaude, faites attention à ce que
il n'y aura pas de troisième mi-temps non plus.
Parce qu'à jamais les premiers, les Limougeaudes. Je referme la parenthèse.
C'est vrai, le CSP.
Bonsoir Philippe Delerme.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On avait envie de vous avoir dans cette émission ce soir. Je rappelle que vous êtes écrivain et que vous avez écrit notamment « Le foot est une enfance » aux éditions du Seuil. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être supporter ?
Ça signifie, pour moi, ça, c'est d'être par rapport à mes petits-enfants, parce qu'ils sont footballeurs parisiens et supporters du Paris Saint-Germain. Donc, je me dois d'être un peu supporter du Paris Saint-Germain. Et en fait, cette année, c'est quand même un plaisir parce que, en fait, moi, je suis amateur de football. Et j'aime le jeu, j'aime les équipes qui ont un beau jeu et depuis toujours. Et il se trouve que, assez miraculeusement, je dois dire, le Paris Saint-Germain, est sous la houlette de RNK, est devenu une équipe qui a un style de jeu, ce qui n'était pas gagné d'avance, notamment dans les premiers tours de la Coupe d'Europe cette année, et qui est venue au fil des mois et de façon assez magique.
Donc ce qui vous attire, vous d'abord, c'est le style ? C'est la beauté du geste ?
C'est vraiment la beauté du geste. Moi, j'ai d'abord vibré longtemps pour des équipes qui perdaient tout le temps, parce que je suis né en 50 et les équipes françaises perdaient tout le temps. Mmh. Puis après, il y a Saint-Etienne qui a tout changé, donc à partir de 76. Et après, il y a eu des équipes qui ont eu un football magnifique, comme Nantes en 95, par exemple. Le Nantes de Wedek, Pedros, Loco, Carambeu, ça c'était vraiment une équipe qui avait un style formidable. J'ai vibré surtout au grand Barça, au Barcelone, surtout avec Iniesta, qui est pour moi le plus grand joueur de tous les temps, Ravi, Messi, etc. Plus récemment, Manchester City, pas cette année, mais les années précédentes. Et puis, curieusement, cette équipe de Paris, qui n'avait même pas d'avant-centre au début de la saison, se demandait un peu comment Enrique voulait la faire jouer.
Oui.
Petit à petit, elle est devenue une équipe avec des joueurs. C'est vrai qu'il n'y a plus les trois grands plus joueurs du monde, avec lesquels on n'était pas du tout les plus forts, mais avec une équipe où tous les attaquants se replient, Barcola, Doué, Dembélé.
Donc, si je résume,
vous avez quand même, Christelle, dit on n'était pas les plus forts. Il a dit on. Vous avez dit on, Philippe.
Oui, mais c'est incroyable parce qu'en même temps, vous êtes capable de supporter plusieurs équipes différentes. Alors qu'on dit depuis le début de cette émission qu'en général, on a une équipe de cœur et on n'en change pas.
Oui, non, ça c'est vrai.
Vous avez le nomadisme.
Le nomadisme culturel. Pour moi, le football, c'est vraiment. J'ai écrit un album avec des photos de Bruno Mazonier. Le foot est une enfance, parce que pour moi, le vrai football, c'est celui que les enfants jouent aux quatre coins de la planète, et parfois avec une petite boule de papier pour faire le ballon. Et c'est ça qui fait la mythologie et les rêves des enfants, et qui fait que le foot, après, c'est la chose la plus importante du monde, parce que c'est le sport le plus pratiqué partout dans le monde.
Et est-ce que c'est un sport qui vous a fait vibrer quand vous étiez petit déjà ? Est-ce que vous avez un souvenir d'être allé au stade avec un papa ?
Oui. Oui, moi j'allais au Parc des Princes quand j'étais adolescent et c'était extraordinaire. C'était pour des équipes qui perdaient, puisqu'à l'époque c'était le Racing Club de Paris et le Stade Français qui se disputaient pour ne pas descendre en deuxième division. Mais quand même, j'ai vécu ça très très fort. Et j'ai vécu la mélancolie. Je suis toujours partagé entre le bonheur et la mélancolie. J'aimais bien la mélancolie de perdre aussi, parce que l'équipe de France la plus belle, c'est celle de 82 qui perd contre l'Allemagne en demi-finale.
Oui, mais on a bien aimé celle de 98 aussi.
Oui, sur le plan du football, j'aimais infiniment mieux celle de 82.
Nathalie Yanetta.
Ça, c'est très français pour le coup. Moi qui suis d'origine italienne, la culture de la gagne, les Français ne l'avaient pas, c'était des perdants magnifiques. C'est vrai que cette équipe 82, qui a quand même gagné en 84 un euro ici en France, même si l'euro était joué par très peu d'équipes, néanmoins, la génération Platini n'a jamais été championne du monde et c'est une injustice absolue. absolue parce que oui, c'était des joueurs absolument magnifiques. Ils ont gagné en 98 avec beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie. Et moi, je me souviens le lendemain du quart de finale France-Italie, la France gagne au tir au but et se qualifie pour la demi-finale. J'étais en Italie à ce moment-là et la Gazzetta dello Sport avait titré « Nous avons créé des monstres » parce qu'en fait, ils ont vu que tous les grands joueurs de l'équipe de France qui jouaient en Italie ont appris la culture de la gagne et que c'est comme ça qu'ils ont renversé la tendance. Et Michel Platini dit toujours, si en 82, on avait été quelques-uns d'entre nous à jouer en Italie, jamais on perdait ce match face à l'Allemagne à Séville le 8 juillet, le 8 juillet 82.
Bonsoir Adama.
Oui, bonsoir madame.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Donc moi, mon témoignage porterait sur ces supporters de sport, par-delà le foot, qui sont à 6000 km de la France, qui sont... moi, je suis d'origine sénégalaise.
Oui.
Et quand je vois le j'aime pas ce mot-là, cette furie, cet engouement, cette croyance par-delà, l'amour du sport. On en pratique régulièrement, informellement, et il y a des professionnels aussi, mais qui s'identifient à un club ici.
Oui.
Que ce soit le basket, le foot, si je prends, et souvent qui s'explique par-delà les raisons de la colonisation et tels ces liens-là, mais aussi ces villes qui ont accueilli des Africains plus facilement que d'autres.
Oui.
Je prends l'exemple de Saint-Etienne, l'AS Saint-Etienne, et je dédie ce témoignage à un ami, Babacar Gueye, qui, depuis toute notre enfance, hein, on passe presque la cinquantaine, mais voilà, qui a toujours rêvé des Verts.
Ah, les Verts.
Il se dit, mais l'équipe des Verts qui te parle de cette époque, c'est ça son explication. Et ouais. D'autres qui te disent, voilà, moi, le cadeau que j'aimerais que tu m'envoies ou que tu m'emmènes, c'est un maillot de l'Olympique de Marseille, du PSG, du Paris Saint-Germain. Et quand on voit ça, c'est pas seulement, parce que j'entends les explications qu'on a ici de famille à telle, mais aussi la beauté du foot et aussi s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose qui représente son éducation, sa culture, parce que quand on prend l'exemple des supporters de clubs d'Allemagne ou de clubs de l'équipe d'Allemagne, on te parle de la rigueur. Ah oui, j'aime bien les Allemands parce que c'est la rigueur. Et une petite analyse avec le recul montre que certaines personnes, voilà, ils aiment ça, ils vivent ça, ils te disent « je m'identifie à Schumacher, je m'identifie
bien
à
sûr,
tel ».
C'est, bien sûr.
Ça aussi, ça a son explication.
Ça a son explication. Merci Adama, parce qu'on doit clore cette émission. Il a tout résumé, en fait, Nathalie Yaneta.
Ouais, c'est sûrement ça, c'est aimer des moments, des émotions incarnées par des hommes, parfois des femmes, qui sont des grandes championnes. Et notre vie, elle peut changer sur un match, c'est fou, mais c'est vrai.
Bah merci, merci à vous tous. Merci Philippe Delerme, Nathalie Yaneta, Ludovic Lestrelin qui était en ligne et Mathias Priez. Merci d'avoir participé à ce téléphone sonne.